Nous voici réunis en cette dixième rencontre du catéchisme pour adultes et nous allons aujourd'hui remettre un peu en perspective tout ce que nous avons médité jusqu'alors. Les semaines précédentes, nous avons focalisé notre regard sur deux sujets, la coopération de la nature et de la grâce à l'école de Saint-Augustin et puis ensuite la création de l'homme et de la femme, cette complémentarité qu'à l'école de Saint-Thomas d'Aquin, nous avons méditée. Remettre les choses dans leur vue d'ensemble, puisque ce catéchisme vise à nous donner une vision cohérente de l'ensemble des mystères de la foi. Nous avons vu ce principe fondamental qui détermine ce que nous vivons ici-bas. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu de telle sorte que, ici-bas sur la terre, l'homme est en chemin vers sa perfection, et celui qui conduit l'homme à sa perfection, c'est Dieu, parce que Dieu ne se contente pas de créer l'homme comme s'il le faisait au hasard. Lorsque Dieu crée, il a une intention, nous avions vu, il veut communiquer son amour et il veut communiquer le bien. Il est dans la nature de l'amour de se donner, il est dans la nature du bien de se communiquer. On avait vu que cette conjugaison de l'amour et du bien était ce que l'on appelait la bonté. Tout procède de la bonté éternelle de Dieu. Nous avions vu que si l'homme est fait pour vivre ici-bas, sur cette terre dans laquelle le bon Dieu l'a placé, voilà que l'homme a également une fin qui dépasse les capacités de sa nature. Je reprends ce point-là pour qu'il soit bien en tête en nous. On avait vu dans la création de l'homme et de la femme, Dieu prendre le limon de la terre pour façonner l'homme, pour ne pas que l'homme oublie que si l'homme est créé le sixième jour, c'est parce qu'il est le sommet de la création et que tout l'univers est fait pour l'homme, et que si l'homme est fait pour vivre ici-bas sur la terre, il est cependant appelé à une autre réalité, cette vie avec Dieu que l'on avait approfondie et qui s'appelle la béatitude. Une béatitude que nous partageons avec les anges, donc on avait vu un petit peu tous ces éléments. Et puisque nous avons parlé de la création de l'homme et de la femme, je vous rappelle que nous avions vu qu'il y avait deux économies. Il y a l'économie originelle, économie, je rappelle, économos, la gestion de la maison. Dieu, lorsqu'il crée Adam et Ève, il les crée dans l'économie originelle. Puis il va y avoir, avec la liberté humaine, le péché originel et Dieu qui va du coup développer une autre économie, l'économie de la rédemption. Mais on avait vu que Dieu a un unique dessein, faire de nous des fils, que le péché originel, la liberté que Dieu laisse à l'homme n'est pas l'échec de Dieu, puisque Dieu, il poursuit tout de même sa fin, faire de nous des fils, et les modalités de cette adoption qui vont changer. Alors je voudrais aujourd'hui, puisqu'on va remettre un peu les choses en ordre et en perspective, que nous commencions à approfondir notre métier d'homme, si on pourrait dire, ce qu'est être un homme. Et on avait vu, en nous mettant à l'école de la Genèse, qu'à travers ce récit, c'est Dieu qui se révèle comme le Créateur et qui se donne et communique sa bonté à toute créature, en particulier à l'homme, pour qui il a créé l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Homme et femme, on ne rentre pas plus dans les détails, on ne va pas faire du politiquement correct pour faire plaisir à ceux qui ne nous écoutent pas de toutes les façons. Donc du coup, l'homme, c'est, pour employer quelques mots un peu savants, mais enfin il faut les entendre, c'est une substance unique composée d'un corps et d'une âme. De telle sorte que ce que l'on appelle la mort, conséquence du péché, c'est la séparation de ce qui est profondément uni, le corps et l'âme. Rappelez-vous déjà, lorsque nous avons médité à l'école de Saint-Thomas d'Aquin, le fait que Adam est façonné à partir du limon et Ève à partir de la côte, la question s'était posée de savoir, lorsque Dieu, une fois qu'il a façonné ce corps, insouffle le souffle de vie, Saint-Thomas d'Aquin de dire « attention, cela ne veut pas dire que le corps est fait avant l'âme. C'est l'inverse. Hein? Dieu a d'abord l'intention de l'âme, et c'est pour l'âme qu'il va lui faire ce corps, qui est, attention, notre propre corps. J'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui ont quelques connaissances en philosophie. Effectivement, avec la prédication des apôtres, avec l'écriture du Nouveau Testament sous l'autorité de l'Esprit-Saint, il va y avoir également la connaissance du monde grec et de la philosophie grecque qui va être un support intellectuel pour les pères de l'Église qui méditent le mystère chrétien. Et Platon, dans les premiers philosophes, Platon qui va mettre en scène Socrate, qu'il a rencontré dans sa jeunesse, va développer cette idée que l'homme est un cocher avec un étrange attelage. Il a à la fois un cheval blanc et un cheval noir. Un cheval blanc qui ne cesse de monter vers le ciel et un cheval noir qui le fait descendre sur la terre. Alors, ça a été un véritable problème puisqu'ensuite, dans cette philosophie-là, l'âme est comme prisonnière du corps et il faudrait surtout que la mort enfin nous libère. Eh bien, ça, ce n'est pas la révélation chrétienne. Je dis ça parce que les pères de l'Église vont utiliser cette philosophie de Platon, qui a des points très positifs sur un certain nombre de sujets, la participation, on en parlera, mais surtout pour dire, attention, on est et un corps et une âme. La preuve en est que nous est promis la résurrection de la chair au dernier jour. Pour l'heure, nos défunts sont en âme au purgatoire ou au paradis, mais ensuite, au dernier jour, ils retrouveront leur chair, car nous sommes notre propre corps. Le corps, ce n'est pas quelque chose qui m'est étranger, je suis mon propre corps, mais dans mon corps, il y a un ordre, c'est l'âme qui est aux commandes. Alors, je reprends la définition que je vous ai donnée. Qu'est-ce que c'est être un homme ? C'est une substance unique, et là on insiste sur l'unicité, composée et d'un corps et d'une âme. On peut développer un peu davantage, on peut dire l'homme il a cette âme qui est immortelle, éternelle, qui vise l'éternité du moins. On peut encore dire l'homme est intelligent, il a une intelligence, il a également une volonté. Donc là, on voit déjà que ce sont des qualités, tout cela, spirituelles. Comment tout ce qu'il y a autour de lui peut rentrer dans son intelligence ? Eh bien, parce qu'il a les sens qu'on appelle externes, les cinq sens. On en a déjà parlé. Ce qui permet à Adam et Ève et à tout homme qui est dans le monde ou au petit enfant qui s'éveille au monde, eh bien, c'est qu'il voit, il entend, il sent, il goûte, il touche, et on voit bien que lorsque nous avons commencé notre métier d'homme, eh bien on a commencé comme ça, non pas avec les doigts dans la prise, mais ce sont des expériences que nous avons faites. L'autorité des parents aussi, ne fais pas ci, ne fais pas ça, pas simplement pour le plaisir d'interdire, mais pour protéger et mettre en garde. Donc on voit que vraiment on a ces sens externes qui permettent à notre intelligence de faire entrer le monde. Donc, je reprends âme immortelle, intelligence, volonté, les sens externes, et également les passions, dont saint Thomas nous dit, les passions, tout ce que l'on ressent, qui sont comme son cœur. Donc, du coup, voyez, intelligence, volonté, sens externe, passion, c'est ce qu'on appelle, du coup, les facultés que nous avons en tant qu'homme. Alors, quand on considère ainsi l'homme et qu'on envisage son origine, il y a plusieurs possibilités. Possibilité n'est pas le mot adéquat, mais enfin, je voudrais là vous parler des états de la nature humaine. Je vous ai dit déjà, en posant le fait qu'il y a deux économies, l'économie originelle, il y a déjà un état de la nature humaine tel qu'il est créé par Dieu en Adam et Ève avant le péché, et puis ensuite il y a un état de Adam et Ève et de l'humanité à travers eux. On a vu, Adam est vraiment au principe du genre humain, et ensuite lui et toute sa descendance, il y a un état de nature qui est pécheresse. Et il va falloir ensuite un autre état, celui bien du Christ qui vient nous sauver. Mais, voyez-vous, on pourrait théoriquement penser, ce sont des choses fausses, mais bien, nous, comme on est humains, les choses qui sont fausses ou qui s'opposent nous permettent de mieux comprendre les choses. On n'a pas l'intelligence des anges qui, elle, est au-dessus. Nous, c'est le chemin inverse. Il faut expérimenter. Et bien souvent, c'est les contraires qui vont nous permettre de comprendre. Comment comprenons-nous la lumière ? Ben parce qu'on doit faire l'expérience aussi des ténèbres. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, à partir notamment, il faudrait remonter plus loin, mais disons du XVIIIe siècle, de l'esprit des Lumières, on va beaucoup insister sur la nature. La nature au détriment de la culture, et on va ainsi penser hein, un retour à la nature, comment était l'homme avant la civilisation, et déjà avec le sous-entendu, avant la civilisation chrétienne, les dégoûts vis-à-vis de notre foi remonte assez loin, mais voyez déjà dans cette philosophie des Lumières, quand on veut penser le retour à la nature, c'est le retour de la nature, mais alors déjà sans le christianisme, et puis si on peut se passer de Dieu, à la limite c'est le grand horloger, ou on va voir. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que on pourrait penser qu'il a existé une nature humaine pure, pure au sens où eh bien, c'était la nature humaine sans la grâce, de Dieu. Or, nous avons vu à l'école de saint Thomas d'Aquin que l'homme est créé par la grâce et pour la grâce, pour cette vie intime avec Dieu. Donc là, ça serait déjà pensé. Donc il y a l'homme et la femme, que la nature humaine, par la grâce et sans le péché. Ben ça, ça n'a jamais existé. C'est une nature pure. C'est purement théorique. Pourquoi ? Ben parce que l'homme a été créé dans et pour la grâce, c'est-à-dire pour cette vie avec Dieu. C'est ainsi que la révélation chrétienne procède. Nous sommes faits pour cette vie intime avec Dieu. De telle sorte que déjà, quand on a ça clairement établi, on comprend que l'humanisme est complètement déraciné. Je prends un exemple. Je vous ai parlé de Platon tout à l'heure. Platon est donc un philosophe 6 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et son incarnation, qui... D'abord, jeune garçon est un poète, rencontre dans sa vie un homme qui va tout changer, Socrate qui développe l'art de poser des questions. Et ça va vraiment changer la vie de Platon, qui va comme brûler tous ses poèmes et qui va se mettre à l'école de Socrate. Socrate qui développe un art que l'on appelle de la maïeutique. La maïeutique, c'est l'art d'accoucher, en disant mais il faut faire accoucher les idées, bien poser les questions. Et c'est à partir de l'œuvre de Platon qu'un quelque chose comme le philosophe peut émerger avec des jolies images de comparaison. Le philosophe, c'est le bon boucher. Pourquoi nous dit-il ? Parce que le bon boucher, il ne coupe pas n'importe comment ses morceaux de viande, il connaît les jointures, il connaît les endroits où il faut passer son couteau. C'est vraiment l'art de bien séparer. Mais ce que la philosophie grecque n'oubliait pas, c'est que ce que nous séparons est d'abord uni. Lorsque le savoir va ainsi se développer et se spécialiser, et c'est normal, quand les connaissances avancent, on va avoir tendance à tellement spécialiser les choses que l'on oublie le principe unificateur. Pourquoi je dis ça ? Parce que Platon, dans ses écrits de jeunesse, il va non seulement être profondément marqué par Socrate, mais il va rencontrer également des sophistes, des gens qui sont comme des professeurs, des avocats, qui vendent leurs services de cité en cité et qui déambulent ainsi. Et ce Protagoras, qui est un sophiste, a développé une idée, on n'a pas le livre qui doit s'appeler « De la vérité », de Protagoras, on l'a perdu du moins, et il a une thèse qui a déjà hérissé le poil du jeune Platon. Cette phrase est la suivante, qu'il va combattre pendant toute son œuvre. L'homme est la mesure de toute chose. Et dans le grand ouvrage inachevé de sa vie, que l'on appelle les lois, eh bien Platon va reprendre la phrase même pour dire « Le Dieu est la mesure de toute chose ». C'est-à-dire que Platon, à force de scruter l'âme humaine, malgré le fait qu'il est païen, qu'il a un polythéisme religieux dans son époque, il va intellectuellement arriver à l'unicité de Dieu. Il va poser, par exemple, qu'il y a un problème, et ce qu'il va développer ça dans la République, c'est que la Bible de l'époque, de son temps, si vous voulez, c'est l'Iliade et l'Odyssée. avec deux figures morales, enfin morales entre guillemets, c'est pas la morale chrétienne, hein, Achille, qui s'en prend parfois plein la tête, et Ulysse, qui est un fief et filou, et qui va être aidé par les dieux dans sa malice. Et donc là, Platon va déjà dire non, s'il y a Dieu, il est bon, et il n'a rien à voir avec le mal. Donc voyez, on met en place déjà un certain nombre de choses dans la réflexion. D'ailleurs, le mot théologie fait sa première apparition dans la République de Platon. Hein, il faut parler de Dieu. Si nous voulons parler de Dieu, théologie, eh bien, le premier principe, c'est que Dieu est bon et n'a rien à voir avec le mal. C'est toutes les définitions du monde grec. Qu'est-ce que c'est que la justice ? La justice, ben, c'est je rends le bien à mes amis, je rends le mal à mes ennemis. C'était ça la définition de la justice. Et Platon de dire, ben non. Même aux ennemis, il va falloir rendre quand même le bien. C'est ça la vertu. Et c'est vraiment la question qui passionne la philosophie à ce moment-là. Retenons seulement ça. L'homme est-il la mesure de toute chose ? Eh bien, Platon répondra non. Le Dieu est la mesure de toute chose. Pourquoi ? Parce que Platon se rend compte que si on en reste comme ça à que ce qui fait l'homme, eh bien, on ne peut pas décoller et ça ne marche pas. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, pour Platon, l'homme, il est le cocher d'un attelage avec cheval blanc, cheval noir, ce qui rend les choses difficiles. Alors il nous dira, les dieux, eux, ont deux chevals blancs, donc du coup, ils peuvent s'envoler, ils peuvent bien conduire, être élevés. Mais l'homme, il a un cheval qui avance, l'autre qui recule, hein, et puis, comme dirait Lamartine et tant d'autres, qui fait l'ange, fait la bête, plus vous montez, plus vous risquez aussi, plus haute sera la chute. Donc Platon a ça, il étudie quand même l'âme humaine et se rend compte que non, il y a une transcendance en l'homme. Ce qui est le principe unificateur ne vient pas de l'homme, il vient de ce que Platon appelle le Dieu, qu'il ne connaît pas. Vous savez, saint Paul, dans le Nouveau Testament, quand il va à Athènes, hein, sur l'agora où sont les philosophes, il leur dit, voilà, je viens vous parler du Dieu inconnu. Hein? Et il va leur parler d'abord de la création. Et les Grecs n'ont pas l'idée de création. Alors je reviens à notre état de la nature pure qui n'a pas existé, pour dire, attention, hein, toute philosophie qui essaierait de nous présenter un homme dont on ne veut pas nous parler de son origine et dont on voudrait le tronquer de tout ce qui est sa transcendance en lui, eh bien ça va être quoi ? Ça va être des systèmes totalitaires comme nous avons assisté au XXe siècle et comme nous avons aujourd'hui sous d'autres formes ces idéologies qui cherchent toujours à corrompre l'homme. Non, l'homme, il se reçoit avant tout de Dieu. Et même, parce que parfois on pourrait dire « Ah, mais être humaniste, c'est important », même là, il y a un ouvrage, je ne prendrai que le titre parce qu'il est provocateur et l'ouvrage est admirable, d'un théologien qu'on appelle Louis Bouillet, qui a intitulé son livre « Humain ou chrétien ?» Point d'interrogation. Et voyez, on retrouve, rien que dans ce titre, la problématique de Platon. Est-ce que je suis humain ? Est-ce que l'homme est la mesure de toute chose ? Et sous-entendu, du coup, je peux faire ce que je veux en tant qu'homme. Ou est-ce que l'homme se reçoit de Dieu et le Dieu est la mesure de toute chose pour l'homme ? Humain ou chrétien ? Et on doit faire attention parce qu'aujourd'hui, pour faire accepter les chrétiens dans le monde, eh bien, on a comme fait une espèce d'humanisme. Donc, humain ou chrétien, il faut choisir, et nous choisissons de suivre le Christ. Le second état de la nature, ce serait un état de nature qu'on appelle intègre, ça serait une nature humaine rectifiée. Alors je vais expliquer pourquoi rectifiée. Parce que quand on considère l'homme, et nous il faudrait préciser l'homme après le péché, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des déficiences dans l'homme. Après le péché, l'homme est mortel et pourtant il ne vise que l'immortalité. Alors l'immortalité aujourd'hui, elle pourrait avoir plusieurs noms, la longévité de la vie, etc., etc. Donc vous voyez, il y a déjà cette idée, hein, l'homme est mortel, c'est quand même une déficience. Et il va falloir essayer de prolonger la vie au maximum ou même dans les mythes, mais attention, des mythes qui sont encore bien actuels aujourd'hui avec l'homme augmenté et d'autres idéologies, hein, pour essayer de faire ce que Nietzsche aurait appelé le surhomme, hein, dépassons-nous l'homme augmenté avec la technique, avec une procréation qui ne serait plus naturelle mais qui serait renvoyée aux officines de laboratoire, etc. Une nouvelle humanité. Et c'est là où le danger se fait, c'est qu'on ne nous dit pas aujourd'hui, après l'idéologie nazie et l'idéologie communisme, qu'il y a aujourd'hui bien des idéologies qui se véhiculent, hein, et qui ne portent pas en elles l'image et la ressemblance d'avec Dieu avec laquelle l'homme a été créé. Donc il y a en nous un problème avec la mort. Alors il y a parfois des personnes très âgées, usées, fatiguées corporellement, qui elles n'en peuvent plus, parce qu'elles sentent entre guillemets que la machinerie ne fonctionne plus. Même si d'autres malades auront un sens de la vie tel que jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant, ils se battront. Vous voyez, il y a en nous cette ambivalence. Hein, il y a ce côté mortel qui est une déficience, et l'homme qui n'attend que l'immortalité. Ensuite, l'homme est passible. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme est passible? Eh bien, ça veut dire qu'un homme, ça souffre après le péché. Un homme, ça souffre. Et pourtant, l'homme ne cherche que, par sa médecine, et c'est très juste, mais également par un grand nombre d'idéologies aujourd'hui, à avoir l'impassibilité. Surtout, il ne faut pas souffrir. Alors, on le comprend. Je ne dis pas qu'il faut être étranger à ça et que du coup, on va souffrir pour souffrir. Il y a une juste proportion, une juste mesure, on a raison. Mais aujourd'hui, il y a quand même, je me rappelle, après avoir été opéré, le nombre de médicaments que l'on m'avait donné après l'opération pour ne pas que je souffre. Ben, j'en ai été plus malade de prendre tous ces cachets que voilà. Donc vous voyez, aujourd'hui on pousse ça, mais on voit bien, hein, en regardant ce qu'est l'homme, hein, que rechercher l'impassibilité, c'est normal, on ne va pas souffrir, on n'a pas... voilà. Mais il faut faire attention à ce que ce soit dans une juste mesure. Donc, dans les déficiences, le fait que l'homme soit mortel, le fait qu'il soit passible, mais aussi le fait qu'il soit ignorant lorsqu'il vient au monde. Lorsque nous venons au monde, nous ne savons rien. On ne sait pas parler et on ne connaît pas encore le monde qui nous entoure. Et comme j'ai eu l'occasion de dire, et en plus nous avons cette expérience du petit enfant qui a l'impression, et c'est bien naturel, que le monde tourne autour de lui. Et il va devoir apprendre non seulement à se décentrer de lui-même, de ses caprices. Pour ça, des fois, les questions, « Ah, mais moi, je ne veux jamais laisser pleurer mon enfant. » L'école de la patience, elle commence aussi au berceau. Et donc, l'homme naît profondément ignorant, et pourtant, il a en lui le désir de connaître. Et Aristote dira, au commencement de la métaphysique, « Et l'homme a le désir de connaître, et le désir de tout connaître. » On n'a pas une petite connaissance comme ça. Non, on a envie de tout connaître. On a en nous ce désir. Et donc on dit, mais c'est quand même une déficience. On arrive dans le monde, on a ce désir de connaître et de tout connaître, qui peut après s'amoindrir avec l'âge adulte. C'est pourquoi on dira toujours, le commencement de la philosophie, c'est ce qu'on appelle l'étonnement. Le fait que je m'étonne, que je pose une question, eh bien voilà que je me mets à penser. Hein, c'est ça le désir de connaître et de tout connaître. Je vous disais, nous on a les créatures, on remonte au créateur, on a des conséquences et on se dit, mais comment on en est arrivé là? Il faut remonter aux causes. C'est très naturel en nous. Mais on voit aussi que cette ignorance, hein, c'est aussi parce que l'homme n'est pas fait pour être un individu. Ça n'existe pas un individu, jamais personne n'a rencontré un individu. On rencontre toujours une personne avec son bagage, son histoire. L'individu, c'est quelque chose de théorique et de profondément malsain. Il n'y a pas d'individu. Alors ça, c'est une invention, hein, pour le chacun pour soi. Et donc du coup, on voit bien que même cette ignorance, elle va être complétée par le fait qu'un enfant ne naît pas seul au monde, que les parents, on l'a vu, ne sont pas là simplement pour procréer, mais aussi pour élever leur enfant. Et puis élever est un mot bien mieux encore qu'éduquer. Élever pour avoir les réalités du ciel, comme nous dirait saint Paul. Donc c'est la troisième déficience, cette ignorance. Et puis ensuite, quand on s'introspecte, c'est quand on se considère soi-même, ben, on se rend compte que nous n'avons pas une harmonie intérieure assurée. Et au contraire, hein, saint Paul le dit admirablement, hein, il y a ce bien que je voudrais faire et que je n'arrive pas à faire, il y a ce mal que je ne voudrais pas et que je fais. Hein, ça c'est vraiment, mais attention, c'est l'état de l'homme après le péché. C'est-à-dire que l'homme, il a un corps, hein, qui va être tiraillé. Pourquoi? Ben, tout à l'heure je vous ai dit que l'homme, il a l'intelligence, il a la volonté. Ben, la volonté, elle est censée suivre l'intelligence et l'intelligence suivre la loi de Dieu. Oui, mais des fois, j'ai pas envie. Et souvent, même avec le péché. Il y a des passions qui vont nous avoir, la tentation d'un bon dessert, d'un bon repas, la tentation, comme dirait Platon dans un ouvrage, des belles jeunes filles, des belles pouliches, des belles... Voilà, on a des tentations comme ça. Et puis là, c'est la volonté. Les sens externes y voient le côté animal en salive. Et ensuite, il y a quand même la volonté. Est-ce que je le veux? Est-ce que je le dois? La réflexion, l'intelligence. Et on voit aussi que ces passions ont un rapport au corps. Il y a en nous un dérèglement. Il y a en nous une disharmonie. Mais ce que nous dit la révélation chrétienne, et c'est ce que Platon touche déjà du doigt dans sa réflexion, c'est que l'immortalité, l'impassibilité, le désir de connaître et de tout connaître, et cette harmonie, eh bien, c'était avec ça que l'on a été créé. Et que tout cela est une nostalgie de l'âge d'or dans laquelle nous avons été créés. Et là, on remet, si vous voulez, les choses à leur place. Et si je prends l'exemple de Platon, ce n'est pas pour faire savant, ni parce que c'est un de mes maîtres, mais c'est parce qu'on voit là, avec un auteur païen, un des fondateurs de notre culture, hein, que serait l'Empire romain sans avoir eu la Grèce. Eh bien, du coup, on voit là aussi que dans cette capacité de la raison, eh bien, Platon a déjà touché du doigt tous ces sujets-là. Donc, pourquoi je vous disais ça? Je vous parlais d'une nature intègre, parce qu'après, certains ont eu l'idée de se dire, tiens, il y a des déficiences dans le corps aussi à cause de la matière. Enfin, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas parfaites. Et du coup, ça serait l'idée que ben, Dieu, il aurait fait une nature humaine rectifiée déjà. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, une nature rectifiée? Ça voudrait dire Dieu, il est bon, et du coup, il a fait quelque chose, oh, ben attendez, je l'ai un peu raté, on ne va pas refaire, je rafistole. Ben, c'est pas comme ça que le bon Dieu fait, ben, je veux dire, c'est pas cohérent avec ce que nous voyons du monde, avec le fonctionnement des astres, de notre corps humain, de tout le reste. C'est bien qu'il s'est passé un quelque chose. Alors, nous en venons à un autre état, et là, nous arrivons maintenant, je vous ai dit, il y a 5 états de la nature humaine. On a vu donc le premier, cette idée de nature pure, et en fait, qui est une idée postérieure. Cette idée de nature intègre, je précise quelque chose maintenant, pour ceux qui réécouteront, qui prennent des notes, ils y reviendront. Ça serait donc cette nature humaine rectifiée avec les dons préternaturels. Vous gardez ça sous l'oreille, on va en parler dans quelques instants. Donc, deux états de la nature qui n'ont jamais existé, qui sont théoriques. Et là, nous entrons maintenant dans les états historiques. L'état de la justice originelle, celle d'Adam et Ève. Dieu a donné à Adam et Ève, et c'est ainsi qu'ils sont créés, cette grâce sanctifiante. Cette grâce sanctifiante que l'on pourrait développer en termes encore plus simples, qui est cette amitié divine. La Genèse nous l'explique en termes très beaux et très suaves pour notre méditation. Hein, le soir, hein, à la fraîcheur du soir, et oui, on est dans le monde oriental, la fraîcheur du soir. À la fraîcheur du soir, Dieu venait dans le jardin et discutait avec Adam et Ève. Il y a une relation d'amitié, c'est ça la grâce. C'est cette amitié divine, cette faveur que Dieu a et dans laquelle il vivait avec Dieu. Voilà. Des fois, la grâce, on peut se dire, c'est des mots compliqués. C'est l'amitié divine, cette faveur que Dieu nous accorde, hein, et Adam et Ève vivaient avec Dieu. Cette nature humaine, elle était graciée, c'est-à-dire elle vivait avec Dieu. Donc, il n'y a pas la séparation, l'homme est la mesure de toute chose. Non, le Dieu est la mesure de toute chose, le Dieu créateur fait vivre en harmonie l'homme et la femme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. On avait vu que Dieu fait tout pour sa grâce, hein, Dieu fait tout par bonté, il fait tout pour qu'on vive avec lui, pour vivre avec Dieu, et là je le dis, c'est pour ça qu'on raccroche des wagons, c'est ce qu'on appelle la béatitude. Hein. L'homme est mis dans le monde, mais il n'est pas fait seulement pour vivre dans le monde, il est appelé à une vie surnaturelle en paradis, être avec Dieu. Et vous voyez déjà, être avec Dieu, les déficiences que j'ai énumérées tout à l'heure, l'idée de l'immortalité, je suis avec Dieu, j'entre dans l'éternité. La passibilité, le fait que le corps souffre, eh bien, du coup, l'impassibilité de la vie éternelle, on l'a entendu il n'y a pas longtemps dans les Écritures, dans l'Apocalypse selon Saint Jean, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance. Et puis, le désir de tout connaître. Mais lorsque je connaîtrai Dieu, lorsque je verrai Dieu, pour utiliser l'image des Saintes Écritures, lorsque je verrai Dieu face à face, et je serai en face de celui qui est la cause de tout. Je connaîtrai. Également pour cette harmonie qui n'est pas assurée en nous, ben on voit bien qu'elle procède d'un mal-être intérieur et que le bon Dieu, ben lui, dans cette vie éternelle, c'est l'harmonie pleine et entière avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs, avec les anges et avec cette création nouvelle qui est appelée également à être en vie éternelle. Saint Paul parle de la nouvelle création. Donc on voit que Adam et Ève sont nés dans la grâce et là ils sont comblés de dons que l'on appelle les dons préternaturels. Praeter en latin signifie en dehors de. Adam et Ève sont donc créés avec des dons qui sont en dehors de la nature. C'est-à-dire Dieu a donné à Adam et Ève, parce qu'ils sont au principe du genre humain, un certain nombre de dons. Je vous ai dit, la grâce, c'est cette amitié, c'est cette faveur. Eh bien, la faveur, elle se manifeste ainsi. Il va y avoir des dons que Dieu a accordés. Saint Thomas les présente comme des conséquences de la grâce. Parce que l'on vit avec la grâce de Dieu, parce qu'on vit dans cette amitié divine, avec cette faveur de Dieu, eh bien voilà que Dieu a accordé à nos premiers parents et à nous tous, par la suite, s'ils n'avaient pas péché, ces dons. Quels sont-ils? Eh bien, c'est l'immortalité, l'impassibilité. Adam et Ève sont munis de science. Et le quatrième don, qui n'est pas des moindres, c'est ce qu'on appelle le don d'intégrité. Donc voilà les quatre. Immortalité, on comprend, je vous l'avais dit. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, ils ne sont pas mortels, puisque, Saint Paul le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Le Christ, il vient non seulement nous sauver du péché, et parce qu'il vient nous sauver du péché, il vient nous délivrer de la mort, et parce qu'il vient nous délivrer de la mort, il nous délivre du mal. Donc du coup, vous voyez que c'est quand même très cohérent. Donc, Adam et Ève ne sont pas créés mortels, ils ne sont pas encore immortels. Je vous avais dit, Saint Augustin, dans le De Genesia Litera, lui parlerait, il y aurait eu comme une assomption, et il serait passé, voilà, on ne sait pas quand, alors on s'interdit la théologie fiction, mais il y a quand même un certain nombre de choses dont on peut penser avec les saints docteurs. Donc l'immortalité, l'impassibilité, oui, Adam et Ève ne sont pas créés avec la douleur. Rappelez-vous une des objections de saint Thomas d'Aquin, dont il se faisait l'écho, sur l'idée de la création de la femme à partir de la côte, en disant, mais attendez, s'il a retiré une côte à Adam, d'abord ça voudrait dire qu'il manquerait quelque chose à Adam, ça fait quand même un peu création à l'économie. Tout d'un coup, là, le créateur dit, oh, bah, attendez, je vais lui prendre une côte pour faire la femme. Non, c'était pas comme ça qu'il fallait le voir. Mais du coup, c'était important parce qu'une des questions disait, mais attendez, ça voulait dire qu'avant pendant la création, il a dû souffrir, Adam, parce qu'une côte, et j'ai eu mal aux côtes ces jours-ci, je sais ce que c'est, ça fait mal. Alors, il y a le soleil, il y a le sommeil mystérieux, mais c'était bien l'idée de dire, mais attendez, avant le péché, pas de douleur. Tout comme la Sainte Vierge n'aura pas les douleurs de l'enfantement, puisque les douleurs de l'enfantement, on a vu, hein, la grande dignité de la femme, sanctuaire de la vie, c'est qu'elle porte en elle la vie, qu'elle met au monde la vie, mais pourquoi dans la douleur? Conséquence du péché. Donc du coup, deuxième don, l'impassibilité. Ils ne souffrent pas. Ils ne sont pas malades. Troisième don, ils sont, et on développera ça, ils sont munis de science. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça dans la Genèse? Eh bien, le langage, je l'ai déjà évoqué, peut-être en aparté de ces catéchèses, le langage est quelque chose que l'on reçoit. Le petit enfant, qui naît sur le sol de France, on va faire des exemples théoriques, parle le français. Voilà, c'est comme ça que c'est censé se passer. Je sais qu'il y en a qui rigoleront sous cape, mais enfin, soyons naïfs sur ce point. On est en France, on parle le français, donc du coup, le petit enfant ne se pose pas de questions. Il entend le vocabulaire de son père, de sa mère, il voit les gestes, il apprend l'ensemble du vocabulaire et a donné un nom aux choses. Des noms qui sont hérités de temps ancien. Regardez le mot préternaturel, ça vient du latin, ça veut dire quelque chose, c'est des mots après savants, précis, ben, on les apprend à tout âge. Et des fois, les dictionnaires sont là, pas seulement pour nous rappeler l'orthographe, mais aussi des fois des définitions. Donc du coup, on voit que Adam, dès qu'il est placé, qu'est-ce que lui dit Dieu? Eh bien, maintenant, vous allez nommer les animaux. Ben, comment Adam pourrait-il nommer les animaux, puisque si personne ne lui a parlé, il ne peut pas parler. Et il ne pourrait pas être ainsi au principe. Eh bien, du coup, voilà que Dieu a donné un langage à Adam. Donc, quand Adam, avec cette immense dignité, parce que là, on mesure ce qu'a été la dignité d'Adam au principe du genre humain, nommer les animaux, nommer les choses de la création, c'est vraiment le commencement du langage. Mais ensuite, quand on entend dans les Saintes Écritures, Saint Jean ouvrir son évangile, comment appelle-t-il Dieu le Fils ? Le Verbe de Dieu, hein, la parole de Dieu. Ça vient du mot grec, hein, c'est le mot logos, hein, c'est la parole. Vous voyez, théologie, théo c'est Dieu, logos, le langage sur Dieu. Donc vous voyez que là, le Verbe c'est la parole créatrice, il a dit et cela s'est fait et en plus cela a été très bon. C'est ainsi que fonctionne la Genèse. Eh bien, voilà la grande noblesse d'Adam de nommer les animaux. Et ensuite, puisque Ève vient après, on est dans le second récit de création, lui apprendre poulain, jument, cheval. Oui, heureusement, j'en suis sorti pour cet exemple qui m'est venu comme ça. Et apprendre à nommer. Donc ça, Dieu a donc déjà donné quelque chose. Qu'est-ce qui est également cohérent ? On ne nous dit pas qu'Adam est un vieillard. Oh, ça aurait été bizarre si l'homme était créé à l'état de vieillard, parce qu'on sent bien que la vieillesse, hein, c'est plus une déficience, hein, plutôt que l'apogée, hein, de l'âge parfait. Alors, vous savez, au Moyen-Âge, où on évite aucune question, on s'interroge, mais quel est l'âge parfait ? 33 ans. Après, c'est le déclin. Voilà, je viens d'en faire 37. Je décline, mes amis. Donc, on voit cet âge parfait. Alors, on dit parce que c'est l'âge que le Christ aurait eu en mourant sur la croix, mais on comprend bien cette forme d'apogée. Alors on se dit, voilà, Adam n'a pas été créé vieillard. Sinon, on se dit, mais pourquoi créer un vieillard Adam ? En plus, si c'est la mère des vivants et qu'elle n'est plus en âge, vous voyez, c'est pas possible. Elle a reçu la mission « Croissez et multipliez-vous ». Bon, pour les hommes, ça dure un certain temps. Pour les femmes, c'est plus limité. Donc du coup, et on ne nous dit pas non plus qu'Adam était un bébé. Parce qu'alors, Dieu ou les anges, ou que fait les anges, auraient eu du mal, ils n'ont pas de corps. Mais il aurait fallu quand même que quelqu'un s'occupe de cet enfant. Donc c'est que Adam est créé à l'âge adulte, pleine possession de ses moyens. Et du coup, Dieu lui a donné le langage. Bon. Et ensuite, le quatrième don, c'est celui d'intégrité. En Adam et en Ève, tout est parfaitement ordonné. Tout est parfaitement ordonné, c'est-à-dire que l'intelligence, elle est véritablement ordonnée à Dieu. La volonté est ordonnée à l'intelligence qui elle-même est ordonnée à Dieu. Les passions sont ordonnées à la volonté qui sont elles-mêmes ordonnées à l'intelligence qui sont elles-mêmes ordonnées à Dieu. Hein, et le corps a des passions. Hein, qui soumet à la volonté, qu'il soumet à l'intelligence, et que tout était parfaitement ordonné. Il n'y a pas de concupiscence, il n'y a pas de mauvais désirs, de mauvaises intentions, et de l'orgueil, etc. On se reçoit de Dieu. Se recevoir de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Et l'humilité, ça vient de humus, le sens de la terre. Je dis, Adam est façonné avec la terre pour se rappeler que nous venons de Dieu et que nous retournons à Dieu.